Oh yes, salut tout le monde. Ici votre animateur Y2 Joe Jonathan Champagne et je vous souhaite la bienvenue à la toute première édition du podcast Le Troisième Câble, le seul podcast de lutte qui va au-delà des quatre coins du ring. Et le show commence là. Oui. Mesdames et messieurs, adultes de tous âges, bienvenue au podcast Le Troisième Câble. Oh oui, je suis vraiment excité, vraiment énervé. J'ai le poil dressé sur le bras. Ça va être écœurant. Donc avant de commencer, laissez-moi me présenter. C'est qui ça, Jonathan Champagne? Ben c'est bien simple. Je suis un gros fan de lutte depuis plus de 30 ans. J'ai surtout suivi, bon, la WWE évidemment, anciennement la WWF. Mais ça, on n'en parlera pas pour pas qu'un pandum poursuivre. J'ai aussi suivi pas mal la WCW à l'époque. Un peu de TNA au début des années 2000 quand il était bon. Et c'est pas mal ça. Donc, si vous attendez à ce que je parle de la New Japan Wrestling ou Ring of Honor ou Impact Wrestling, malheureusement, ça sera pas le cas. J'ai pas assez de connaissances sur ces fédérations-là. Donc, j'en parlerai pas dans mon podcast. Je vais surtout plus me concentrer sur la WWE et peut-être sûrement mentionner là, au passage des fois là, un petit peu la NWA Power et évidemment la All Elite Wrestling. Donc voilà, voilà qui je suis. Donc si vous êtes prêts à me suivre, embarquez, on va avoir du fun. On part ça cet épisode-là. Donc aujourd'hui, moi je voulais vous parler du Hall of Fame de la WWE. Donc le temple de la renommée. Et surtout, à savoir si ce fameux temple de la renommée est crédible ou pas. Je m'explique. Ce qui arrive avec ce fameux temple de la renommée pour la WWE, et qui est selon moi le premier problème majeur, est que il n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas de temple de la renommée en tant que tel. Il n'y a pas d'endroit physique, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a aucun musée qui existe. Il n'y a même pas une petite exposition là en ville quelque part là, c'est y a rien. Ce qui fait que à chaque année, on organise un Hall of Fame qui a plutôt l'air d'un party, d'un événement de PR pour faire plaisir aux sponsors, pour remplir ses poches, se taper un petit peu dans le dos en se disant regardez comment qu'on est beau sur notre beau 36. On est bien habillé, regardez les beaux costumes, les belles robes, on est gentil, on rend hommage aux grands de l'industrie, on leur donne un beau petit bijou dans les mains, une petite plaque pour dire merci, va mettre ça sur ton foyer chez vous, mon gros. Et voilà, c'est fini. Et je trouve ça vraiment dommage parce que la fédération, la WWE, selon moi, pourrait amplement bénéficier d'un musée, même d'un musée payant, où est-ce que tu charges les visiteurs un petit montant à l'entrée pour qu'ils puissent venir observer les différentes expositions. Tu peux même mettre ça sur plusieurs étages, parce qu'on s'entend avec le nombre de lutteurs intronisés dans le temple de renommée. Il y aurait bien du stock à exposer, là, donc on pourrait faire bien de l'argent avec ça. Puis même chaque lutteur pourrait avoir son espèce de plaque commémorative avec une liste de ses meilleurs moments, les meilleurs matchs. Pourrait aussi avoir un endroit où est-ce qu'il y a un ring d'installer même. Où est-ce qu'on y montre ce qui se passe au Performance Center, les entraînements des nouveaux lutteurs. Pourrait même y avoir une façon de rentabiliser ton musée en exposant les différents items que tu as dans ton warehouse. Pour ceux qui ne savent pas, la WWE a un warehouse, donc un espèce de gros entrepôt, où est-ce qu'il y a une quantité folle d'accessoires, d'anciens costumes, les vieilles ceintures qui ne sont plus utilisées aujourd'hui, un paquet d'affaires dans ce genre-là, même l'ancien stage de SmackDown, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ancien stage où est-ce qu'il y avait un gros point, mais ce fameux point-là est entreposé dans le warehouse. Et ça pourrait être intéressant d'inclure ça dans cette espèce de musée-là pour le Temple de la Renommée. ça pourrait faire des allées intéressantes à montrer à tes visiteurs. Il pourrait y avoir aussi plein de kiosques style WWE Shop, où est-ce que tu vends ta marchandise comme tu le fais dans tous tes shows, toutes les arénas où est-ce que tu passes. Donc, il y aurait même moyen de faire de l'argent avec ce musée-là, selon moi, si tu es prête, en tant que compagnie, d'investir pour soit la faire bâtir ou acheter un building qui est plus utilisé. Parce qu'en n'ayant aucun endroit tangible pour ton temple de la renommée, selon moi, c'est très difficile de le prendre au sérieux. Surtout comparativement aux autres sphères un peu là, du sport et du divertissement, comme le hockey ou le basketball professionnel, ou même le rock and roll, qui possèdent tous trois leur propre temple de la renommée physique. Et si on reste dans la lutte, il y a le Professional Wrestling Hall of Fame, donc le temple de la renommée de la lutte professionnelle, situé au Texas. Et selon moi, la WWE, sans nécessairement copier le système fait par ce Hall of Fame-là, pourrait quand même bénéficier de s'inspirer de ce qu'ils ont fait avec leur temple de la renommée, parce que c'est bien structuré, ça fait du sens, c'est logique comment ils ont fait ça. On va y revenir un petit peu plus tard dans le podcast, je vais revenir sur ce point-là. Mais si on reste sur la crédibilité ou le manque de, c'est difficile de prendre le Hall of Fame de la WWE au sérieux quand justement c'est supposé être une célébration des légendes de la WWE, donc qui ont combattu dans ton ring et que la plupart ou une très grande partie de tes intronisés n'ont jamais été un de tes employés à la WWE, n'ont jamais mis un pied dans un ring de la WWE. Et là, j'ai une liste devant moi, je ne les nommerai pas toutes parce qu'il y en a beaucoup. Mais là, on parle quand même de gros noms, là, comme Gordon Sully, Nick Bockwinkel, Vern Gagné, Gorgeous George, même les Four Horsemen, Abdullah the Butcher, lui, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il fait là. On a aussi Mil Mascaras, qui, si vous vous souvenez bien, son seul grand moment à la WWE, c'est quand il s'est lancé lui-même à l'extérieur du ring, par-dessus le troisième câble, au Royal Rumble 97. Mais après ça, il n'a rien fait. C'était sa seule présence à la WWE, qui, selon eux, justifie une intronisation au Temple de la Renommée. C'est un peu ridicule. D'autres noms comme Carlos Colon, Antonio Inoki, et j'en passe, là, comme vous pouvez voir, là, de très gros noms. Et je tiens à préciser, c'est pas des personnes qui ne méritent pas une place dans un temple de la renommée. Au contraire, c'est toutes des gens qui ont eu des grosses carrières, qui ont eu un impact majeur dans le monde de la lutte, mais pas à la WWE. Et si on reste dans cette optique-là, qu'il y en a qui ne méritent pas leur place, parce que à la base, c'est supposé être ça, le temple de la renommée. C'est que c'est supposé d'être basé sur le mérite, sur la carrière que tu as eue, ou en tout cas la longévité de ta carrière, et surtout sur l'impact que tu as eu sur ta discipline. Je trouve ça aberrant que des noms comme Coco Beware, Hillbilly Jim, pour ne nommer que ceux-là, fassent partie du Temple de la Renommée, parce qu'ils n'ont pas nécessairement eu une grande carrière. Oui, OK, ça a été quelques beaux moments par-ci et là, ils ont été très populaires auprès des fans. Est-ce que ça justifie cet honneur-là d'être dans le Hall of Fame? Selon moi, non. Surtout qu'ils n'ont jamais remporté aucun titre, ou du moins de titre majeur. C'était surtout juste des attractions pour divertir le public. Écoute, si c'est ça que ça prend pour être dans un temple à renommée, avoir un petit perroquet sur ton épaule, ou taper du pied en chantant Country Boy, écoute, petit message aux gens en ce moment à la WWE, prenez note. Avant de poursuivre, un bref bulletin de nouvelles. On apprenait récemment que Sarah Logan, anciennement de la WWE, attendait un enfant avec son mari Eric Rowe, donc des Viking Raiders. On leur souhaite tout le bonheur du monde. Et petite question comme ça, est-ce que je suis le seul qui espère fortement que le petit bébé naisse avec du maquillage blanc sous les yeux et un casque de Viking sur la tête? Je suis sûrement le seul. Aussi, on apprend aujourd'hui que Renee Young se serait finalement remise de la COVID. On se rappelle qu'elle avait testé positive il y a quelque temps. Elle et son mari John Moxley, anciennement Dean Ambrose, sont donc confinés depuis quelques semaines à leur domicile. Donc, si les deux testent négatifs la semaine prochaine, ils pourront revenir au travail. Ce qui voudrait dire que John Moxley pourrait finalement affronter Brian Cage lors de Fight for the Fallen mercredi prochain pour la ceinture AEW. Autre point important à souligner concernant le manque de crédibilité du Hall of Fame est selon moi l'inclusion des intronisations spéciales lors des cérémonies que je trouve un peu douteuses. Et là, ces intronisations spéciales-là, on parle de la Celebrity Wing, le Warrior Award et le Legacy Wing, qui selon moi n'ont aucunement d'affaires dans le Hall of Fame, ou du moins si on doit les laisser intact dans les cérémonies, au moins qu'on modifie un peu l'approche ou le critère d'admissibilité. Parce que c'est un peu baboche, c'est un peu flou là, comment ils considèrent leurs intronisés. Commençons avec le Celebrity Wing. Honnêtement, pourquoi? Pourquoi qu'on devrait avoir dans le Hall of Fame une aile de célébrité? C'est à moins que la célébrité en tant que telle ait eu une grosse carrière dans la lutte. Ça n'a pas sa place. Tu sais, si on regarde le temple de la renommée du hockey, il n'y a pas de célébrité, là. C'est des joueurs. T'sais, tu vas retrouver des Steve Yzerman, tu vas retrouver des Wayne Gretzky, tu vas retrouver Maurice Richard, tu vas retrouver Patrick Roy, tu vas retrouver des gens qui ont eu une grosse carrière, une grande carrière au hockey, mais tu n'auras pas des célébrités. Il n'y a pas Marc Messier qui est intronisé pour son personnage de Marc Gagnon dans l'ancien compte, là, on s'entend là. T'sais, c'est pas parce que Rémi Gérard a joué le rôle d'un coach de hockey dans les Boys qu'on va lui faire une place aux côtés de Scotty Bowman. Là. On s'entend là. Même chose un peu pour le Hollywood Walk of Fame, le fameux trottoir où est-ce qu'il y a les étoiles d'acteurs à Hollywood. T'sais, on fera pas une étoile à Michael Jordan parce qu'il a joué son propre rôle dans Space Jam. Ça serait ridicule, c'est niaiseux. Donc pourquoi que la WWE aurait une aile de célébrité? C'est complètement illogique selon moi. Ça n'a pas sa place. Et c'est très difficile de prendre cette intronisation-là au sérieux quand déjà en partant, la cérémonie est très fragile côté crédibilité. Surtout que si on regarde là, en tant que tel, la liste des fameuses célébrités qui ont été intronisées au fil des années, il y en a plusieurs là qui n'ont aucunement d'affaires là. Si on pense premièrement à Drew Carey. Qu'est-ce que Drew Carey fait dans le Hall of Fame? Sa seule participation à la lutte en tant que telle a été d'être dans le Royal Rumble de 2001. Il est rentré, il a offert de l'argent à Kane pour se sauver la face. Kane l'a grippé par la gorge. Puis il y a un autre participant qui est arrivé, qui a attaqué Kane, et Drew Carey s'est sorti lui-même du Rumble en passant par la troisième corde. That's it, that's all. Et ça mérite un Hall of Fame. C'est un peu ridicule. Dans la liste, on a aussi Kid Rock, Snoop Dogg, que leur seule raison d'être là, c'est qu'ils ont fait un concert à un moment donné à WrestleMania, puis qu'ils ont fait un segment ou deux à la télé. Ils n'ont rien apporté, absolument aucune contribution, à part peut-être Kid Rock qui a offert une toune pour Undertaker à son retour en 2000, mais that's it, that's all. C'est la même chose pour Pete Rose. Pete Rose, l'ancien joueur de baseball qui a eu des démêlés avec la justice à cause qu'il aurait gagé sur des games de baseball. Pete Rose, depuis des années, se fait refuser l'entrée au Hall of Fame du baseball. Qu'est-ce que la WWE fait? Ben, hey, viens-t'en, nous autres, on a une place, le gros. C'est complètement absurde. Je vous rappelle, Pete Rose, ses seuls faits d'armes à la WWE a été de se faire chokeslam par Kane à 3 WrestleMania de suite. That's it, là. Pis ça mériterait une place au temple de la renommée. Voyons donc. On a aussi Arnold Schwarzenegger, qui à part avoir crissé une claque de revers à Triple H lors d'un SmackDown, n'a pas fait grand-chose. Donald Trump, la personne préférée du monde entier en ce moment, on va se le dire. Ou pour ceux qui ne savaient pas, le président, en ce moment, a une place au temple de la renommée. Tout ça à cause qu'il a acheté un moment donné, entre guillemets, Monday Night Raw pour le revendre après ça à Vince McMahon la semaine d'après. Et a rasé la tête de Vince McMahon lors d'un WrestleMania. C'est pas mal juste ça qu'a fait Donald Trump. Ah oui. Puis il a prêté son Plaza Hotel lors du WrestleMania 4 et 5. That's it. Et le nom que je trouve le plus aberrant qui se retrouve dans cette liste-là, William the Refrigerator Perry. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ancien joueur professionnel de football qui a participé à la bataille royale de WrestleMania 2. Il est rentré, s'est battu un peu, s'est fait sacrer dehors du ring. That's it, that's all. Fait qu'un ancien joueur de football s'est fait introniser au Temple de la Renommée avant des gros noms comme Ric Flair, comme Stone Cold Steve Austin, comme Randy Macho Man Savage, qui auraient mérité amplement leur place au Hall of Fame bien avant un ancien joueur de football que son surnom c'est Frigo. Voyons, c'est complètement absurde, c'est illogique. Bravo à la WWE pour faire en sorte qu'on prenne ces cérémonies au sérieux. Surtout que dans toutes ces célébrités-là, il y en a deux qui ont vraiment fait quelque chose, qui ont vraiment comme changé un peu la face de la fédération, qui ont aidé à faire avancer. Il y a Mr. T qui a fait partie du premier WrestleMania et de quelques vignettes avant avec Hulk Hogan. Il s'est même battu contre Roddy Piper dans un match de boxe contre Luther à WrestleMania 2 l'année d'après. Donc oui, ok, sa place peut être à la limite justifiée si on veut. Autre célébrité qui a totalement sa place dans le Hall of Fame, c'est Mike Tyson. On s'entend pour dire que de janvier à mars, donc après le Royal Rumble 98 et WrestleMania 14, ses nombreux segments avec Stone Cold Steve Austin et D-Generation X ont été assez mémorables. Est revenu par la suite, là, un petit peu plus que 10 ans après, pour confronter Chris Jericho, pour se réaligner en plus avec DX. Lui, à la limite, mérite amplement sa place, seulement pour le fait au moins que sa participation pendant cette période-là à la WWE a fait en sorte que la compagnie a finalement battu la WCW dans la guerre des codes d'écoute, le fameux Monday Night Wars. C'est pas nécessairement à cause de Mike Tyson, mais ça, ce qui a suivi par la suite, c'est ce qui a aidé. Et il a évidemment aidé à construire Stone Cold Steve Austin pour le rendre vraiment la super vedette qu'il a été. Passons maintenant au Warrior Award. C'est quoi ça le Warrior Award? C'est en fait un prix remis à quelqu'un qui à la base a des difficultés, tout ça, mais qui continue de se battre et qui démontre du courage et de l'adversité, qui rappelle un peu l'esprit du Ultimate Warrior. Et on se rappellera que le prix Warrior Award avait été remis à la base à Connor Mihalek, au petit jeune garçon qui combattait une rare forme de cancer à l'époque. Et c'était un grand fan de lutte, surtout de la WWE. Et son héros, c'était Daniel Bryan. Il avait réussi à le rencontrer backstage. Il l'avait rencontré aussi par la suite, là, on l'a vu souvent dans les vidéos avec Batista, AJ Lee, avec Stephanie McMahon. On l'avait même vu qu'il avait fait un tombé, là, un 1-2-3 sur Triple H. L'arbitre l'avait compté et tout. C'était des beaux moments, c'était des beaux vidéos touchants, c'était le fun. Puis, la WWE avait appris que Connor, lui restait pas beaucoup de temps à vivre malheureusement, et avait décidé de l'inviter à être en première rangée avec son papa à WrestleMania 30, là où est-ce qu'il a pu voir son héros Daniel Bryan remporter le titre de championnat du monde à la fin du combat principal de l'événement. Donc c'était un beau moment, c'était vraiment touchant. Et ce qui est particulier, c'est que Connor est décédé le 25 avril, 2 semaines et demie seulement après Ultimate Warrior, qui venait tout juste, justement, dans ce week-end de WrestleMania, se faire introniser au Hall of Fame. Donc, pour comme rendre hommage aux deux personnes, la WWE avait décidé de créer ce Warrior Award et de le remettre à Connor comme son premier récipiendaire. Par contre, si on se rappelle bien, Ultimate Warrior, lors de son discours d'intronisation, avait suggéré à la WWE de créer un prix, Jimmy Miranda, que ça s'appelait, pour remettre aux gens un peu inconnus qui travaillent très fort à l'arrière-scène, qui n'ont pas nécessairement la reconnaissance que les lutteurs ou les commentateurs ou les managers ont, et qui mériteraient amplement eux aussi au moins un prix spécial pour récompenser pas mal là, leur gros travail. Et d'ailleurs, Jimmy Miranda, qui a travaillé pendant 20 ans dans le département des produits dérivés, là, donc on le connaissait pas en tant que tel, mais s'il a été mentionné, il devait faire un très gros travail. Et Ultimate Warrior trouvait ça important de remettre ce prix-là. Et la WWE, suite au décès de Connor Mihalik, ont décidé d'un peu comme modifier cette suggestion-là pour le remettre, comme j'ai dit, aux gens qui, dans la vie, ont plusieurs difficultés physiques, des retards, des trucs comme ça, mais qui continuent de se battre, qui démontrent de l'adversité et beaucoup de courage, beaucoup de force. Et en soi, c'est honorable comme prix. Mais en même temps, ça leur aurait été encore plus honorable de suivre la suggestion de Warrior et de le remettre à tes employés qui travaillent extrêmement fort et que leur travail, justement, n'est pas reconnu. Parce que, autant que, oui, un petit jeune homme comme Connor Mihalik mériterait un prix de reconnaissance pour sa combativité, en même temps, c'est un peu aberrant qu'il aille une place dans le Hall of Fame quand d'employés qui ont œuvré à la WWE depuis très longtemps, comme Tony Kemmel, comme Lillian Garcia, comme Tim White, des arbitres, des gens qui ont travaillé au maquillage ou au costume depuis tant d'années, n'ont pas leur place spéciale au Hall of Fame, selon moi, c'est un peu ridicule. Et écoutez-moi bien, je ne dis pas encore une fois que des jeunes comme Connor Mihalik et tous les autres récipiendaires les années d'après ne méritent pas une reconnaissance de leur courage. Mais si le Warrior Award est pour ces personnes-là, et c'est correct en soi, il aurait fallu aussi créer le fameux Jimmy Miranda Award, ou peu importe le nom qu'on aurait pu lui donner, pour récompenser tes propres employés qui travaillent très fort et que personne ne connaît. Bon, ils se sont repris l'année passée, en 2019, pour le remettre à Sue Atchison, que ça fait plus de 30 ans qu'elle travaille pour la WWE. Ils ont ensuite mentionné que à partir de cette édition-là, de 2019, toutes les autres éditions allaient être remises à un employé de la WWE. Et quand on pense à ça, moi j'ai des noms comme Jim Johnson, qui a travaillé quasiment 30 ans lui aussi à la WWE, et que c'est grâce à lui s'il y a de la musique à la WWE. Tous les thèmes musicaux composés, ou presque, ont été de ses mains à lui. Tous les thèmes de pay-per-view, les thèmes d'événements spéciaux quelconques, si on entendait de la musique durant un show en tant que tel, et que c'était pas une chanson d'un artiste connu, c'était créé par Jim Johnson. Et c'est assez absurde que cet homme-là ne soit pas intronisé encore aujourd'hui. Maintenant, pour le Legacy Wing. Ça là, honnêtement, le Legacy Wing ne devrait même pas exister. Ou du moins, ne devrait pas exister sous sa forme actuelle. Et pourquoi je dis actuelle, on va y revenir à la fin du point. Ça, le Legacy Wing, pour ceux qui ne le savent pas, ça a été instauré en 2016. C'est une sorte de prix remis à tous ceux, les pionniers, les bâtisseurs, plusieurs lutteurs, les promoteurs, les gens de l'industrie qui n'ont pas nécessairement connu une carrière à la WWE, mais qui ont eu un impact sur le sport. L'affaire, c'est que ceux de la Legacy Wing sont intronisés par un vidéo package, par un petit montage vidéo, de quelques minutes seulement, on voit leur nom pendant quelques secondes et c'est fini après. Et pourtant, il y a plusieurs gros noms là, dans cette Legacy Wing-là. Des noms comme Lord Alfred Hayes, Bruiser Brody, El Santo, Frank Gotch, Lutez. Il y en a plusieurs autres, là, mais quand même des gros noms importants dans le monde de la lutte qui n'ont pas été intronisés formellement. Juste un petit vidéo package de quelques minutes, dans titre d'attente, on n'en parle plus. Je trouve ça pas mal aberrant. Surtout si on revient en arrière et on parle de ceux qui ont été intronisés, comme le Celebrity Wing, ou plusieurs autres lutteurs qui ont été intronisés qui ne le méritaient pas vraiment, quand il y a du monde comme Lord Alfred Hayes, qui a été parmi plusieurs moments mémorables, surtout avec les Bushwhackers, des entrevues qu'on se souvient beaucoup avec Vince McMahon et d'autres lutteurs, des sketchs qu'il avait fait avec Mean Gene Okerlund, et j'en passe là. C'est aberrant que cet homme-là n'a pas été intronisé formellement lors des dernières cérémonies, quand il le méritait amplement. Surtout qu'avec cette Legacy Wing-là, ça a apporté son lot de controverses, comme particulièrement avec la veuve de Bruiser Brody, qui a appris le soir même que son mari se faisait introniser, entre parenthèses, au Hall of Fame, et elle n'a même pas été invitée à la cérémonie. C'est grave, là. Gros manque de jugement de la part de la WWE, selon moi. Et si vous vous rappelez bien, lors d'un premier point concernant le manque de crédibilité, où est-ce que je disais que j'allais revenir sur ceux qui n'ont jamais eu de carrière à la WWE, mais qui mériteraient une intronisation au Hall of Fame, moi je réserverais cette place-là du Legacy Wing à ces gens-là qui n'ont jamais combattu dans la WWE, mais qui mériteraient leur place. Quand je parlais de Nick Bockwinkle, des Four Horsemen, de Vern Gagné, tout ça qui sans eux, la lutte ne serait pas pareille, moi j'aurais réservé le Legacy Wing pour ces gens-là, puis qu'on en fasse une intronisation formelle. Ça, ça leur aurait fait du sens. Ou du moins, ça justifierait au moins son inclusion dans les cérémonies qu'on connaît. En plus, selon moi, ça permettrait de réduire le nombre de récipiendaires par année, parce qu'au fil que ça va, si on remarque bien, là, il va manquer de personnes à introniser, là. Il n'y a pas tant de lutteurs que ça qui ont marqué le sport, encore moins qui ont marqué la WWE. Et comme j'ai dit plus tôt, en parlant du Professional Wrestling Hall of Fame, leur structure pourrait inspirer la WWE si on peut inclure le Legacy Wing dans les cérémonies qu'on connaît. De la façon qu'eux fonctionnent, le Professional Wrestling Hall of Fame, c'est qu'il y a tout le temps minimum deux inclusions pour des pionniers qui ont œuvré surtout là, dans les années 40 et avant ça là, de la guerre civile. Il y a toujours aussi à peu près deux intronisés pour l'ère de la télévision qui s'étend de 1947 à 1984. Ensuite, il y a toujours deux intronisés de l'ère moderne. Ça, c'est les 1985 à aujourd'hui. Ils ont toujours aussi une intronisation pour une équipe ou un groupe. Un lutteur international, donc que ce soit un lutteur qui vient du Mexique, du Japon, de la lutte british. Ils ont aussi une section pour, évidemment, les lutteuses, donc les femmes qui ont marqué le sport. Ils ont même aussi une section pour les arbitres. Selon moi, on devrait, chez la WWE, prendre l'exemple là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'arbitres qui ont œuvré, qui ont fait une grosse carrière. On pense à, justement, là, dernièrement, Mike Chioda qui a été renvoyé. Peut-être pas tout de suite parce que ça serait un peu baveux, selon moi, mais mériterait, selon moi, sa place au Hall of Fame. Donc, la WWE pourrait amplement s'inspirer du temple à renommée de la lutte professionnelle pour un peu restructurer là, son approche là, de cérémonie. Là. Moi, selon moi, on réduit les récipiendaires en ajoutant un membre dans le Legacy Wing, mais un membre, vraiment un seul, et on y fait une intronisation formelle, en plus de complètement éliminer la catégorie Celebrity. Non seulement ça réduirait le temps d'antenne de ton événement, parce que d'année en année, le Hall of Fame devient de plus en plus long, mais en plus, ça crédibiliserait ton temps de la renommée, ça lui rajouterait un petit côté plus legit, chose qu'il aurait grandement besoin. Ok, c'est le moment du segment croque en jambe et descente du coude. Et là, je vous entends à la maison. Joe, c'est quoi ça, un segment croque en jambe, descente du coude? What the, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est bien simple. Pour moi, un croque en jambe, ça va être une nouvelle qui fait pas de sens, qui a pas d'allure. Ou est-ce que c'est important de souligner ce qui est illogique et immoral dans tout ça? Et à l'opposé, une descente du coude, ça va être une nouvelle ou un événement qui est agréable, qui est le fun, qui est positive, qui dans le fond, même spectaculaire. Fait que c'est important de souligner ça aussi. Pour mon croque en jambe de la semaine, ça va à Vince McMahon qui a instauré très récemment une nouvelle politique concernant le port du masque obligatoire. Bon, en soi, on va se le dire, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est quand même important, là. Le virus n'est pas terminé, c'est encore là. Et si tu veux amener du public dans dans tes enregistrements télé, parce que là, en ce moment, le public, c'est bon des gens au Performance Center qui s'entraînent pour devenir lutteurs. Donc, c'est eux qui font office de public, mais c'est quand même important qu'ils portent un masque. Par contre, le bémol dans tout ça, c'est que si on regarde, il est quelle date aujourd'hui? On est début juillet, et le virus, là, et la pandémie, a starté à la mi-mars. C'est un peu en retard, chum, là. C'est peut-être pas pour rien que tu as à peu près là, au-dessus de 40 employés qui ont testé positif à la COVID dans les dernières semaines. Et si tu avais masqué tout ton monde la première minute que c'est arrivé, pas sûr que tu aurais eu ben des tests positifs. Fait que ça, c'était mon croc en jambe de la semaine. Pour ma descente du coude, ben là, je salue en fait. Bon, ils m'entendront pas, là, mais je salue toutes les victimes d'agressions sexuelles, d'harcèlement sexuel, ceux qui ont été aussi là, victimes de comportements vraiment inappropriés, de d'autres lutteurs, et qui ont pris leur courage, à deux mains pour livrer leur témoignage de ce qu'ils ont vécu dans le mouvement Speaking Out. Ça fait quelques semaines que c'est comme lancé, si on veut. Et là, il y a plusieurs lutteurs comme Jimmy Havoc, Joey Ryan, David Starr, Jordan Devlin, même Velveteen Dream et Matt Riddle qui ont été accusés. Il y a plusieurs arbitres, puis même Jim Cornette qui a été accusé, lui et sa femme. Donc là, ça n'arrête plus, on dirait. Ce qui est bien, c'est que plusieurs fédérations qui ont coupé les liens avec ces personnes-là. Et je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de fédérations qui vont refuser de les signer ou de leur offrir un contrat quelconque. Et ben écoutez, chapeau à tous ceux qui ont livré leur témoignage récemment, là. Donc c'est ça prend beaucoup de courage et beaucoup d'humilité. Donc bravo à tous et à toutes, surtout. Donc voilà, c'était mon segment croque en jambe et descente du coude. Là, je sais que je donne l'impression de juste bâcher sur le Hall of Fame depuis tantôt, que je parle juste du côté négatif, du côté pas crédible des cérémonies. Mais effectivement, il y a eu des bons moments dans les dernières cérémonies, plusieurs speeches marquants. On n'a qu'à penser à celui de Edge, de Ric Flair en 2008, ça valait vraiment la peine. Celui de Roddy Piper en 2005, qui était complètement sauté. Les histoires pas possibles qu'il a racontées. On n'a qu'à penser à The Rock quand il a intronisé son père et son grand-père en 2008. Ça aussi, c'était quelque chose d'assez formidable. Mais mon coup de cœur s'est passé en 2004 lors du speech d'intronisation pour Bobby the Brain Heenan. Il venait tout juste de se remettre. Il était en train de se remettre, en fait, de son cancer de la gorge. Et tu sais, ça paraissait que ça l'affectait physiquement. Évidemment, ça laisse des séquelles. Mais aucunement que ça allait affecter sa vitesse d'esprit et son sens de l'humour, son sens de la répartie impeccable. Vraiment, là, un grand speech, extrêmement drôle, touchant. Vraiment, là, ça vaut la peine pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Allez regarder ça tout de suite. Droppez ce que vous faites. Abonnez-vous au network tout de suite. Mais ça vaut vraiment la peine de regarder ce petit bijou-là, selon moi, là. Bobby the Brain Heenan paye son âme. Il nous manque tous. Aussi, tantôt, je parlais surtout de... Il y en a qui ne méritaient pas, selon moi, la place de Hall of Fame qu'ils avaient. Il y a aussi des intronisations spéciales qui ne devraient pas exister. Mais évidemment, il y a des personnes qui sont Hall of Fame et qui méritent amplement leurs intronisations. Même que c'est grâce à eux, selon moi, que le Hall of Fame y a un minimum de crédibilité. Et je parle bien sûr de Andre the Giant et Bruno Sammartino. Ces deux-là, selon moi, légitimisent, si on veut, à eux-mêmes le temps de la renommée. tellement ils ont été importants, tellement ils ont été populaires, universellement populaires même. Il n'y a aucune personne dans le monde qui pouvait dire une chose négative sur l'un de ces deux messieurs-là, tellement ils étaient aimés, tellement ils étaient respectés, tellement que leur présence a eu un impact majeur dans la lutte. Sans eux, je pense pas que la lutte serait où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui. Et je pourrais même rajouter un troisième nom dans cette liste qui n'est pas encore dans le Hall of Fame et qui, selon moi, dès son intronisation, devrait quasiment être le seul intronisé cette année-là. Peu importe l'année dans laquelle il va être intronisé. Je parle bien sûr de Undertaker. On va s'entendre. Sa carrière, peut-être pas nécessairement juste sa carrière, mais son personnage et surtout à quel point il a travaillé fort pour garder son personnage intact, ça n'a pas d'égal. C'est fou à quel point il a fait attention à ce qu'il faisait. Quand il sortait en public, jamais ou presque il parlait aux journalistes. Je ne sais pas s'il y a un autre lutteur dans l'histoire de la lutte qui a autant fait pour sa profession que lui. Je n'énumérerai pas tous ces matchs et tous les moments importants nécessairement. Je me garde ça pour un autre épisode qui s'en vient bientôt. Je vais en faire un complet sur Undertaker. Mais pour moi, là, ça, c'est un nom qui va encore plus légitimiser le Hall of Fame de la WWE dès qu'il sera intronisé. Et maintenant, on ne peut pas parler, en terminant l'épisode, du Hall of Fame sans parler de l'édition 2020 du Hall of Fame qui n'a pas encore eu lieu. On se rappelle que chaque édition du Hall of Fame depuis 2004 s'est déroulée dans la fin de semaine du WrestleMania. Cette année, évidemment, à cause de la pandémie du COVID, ça n'a pas eu lieu, ça a été reporté. Jusqu'à tout récemment, c'était supposé se passer à SummerSlam qui s'en vient le mois prochain, au mois d'août. Et là, de plus en plus, ça se concrétise. SummerSlam va devoir être présenté au Performance Center, comme tous les derniers shows dans les derniers mois. Évidemment, ça m'étonnerait bien gros qu'ils décident de faire le Hall of Fame 2020 au Performance Center sans aucun public. Et rendu là, je vous pose la question, on fait quoi avec ce Hall of Fame? Est-ce qu'on le présente quand même? Est-ce qu'on attend encore plus longtemps? Est-ce qu'on attend au Survivor Series, qui est le prochain gros show après SummerSlam en novembre? Moi, honnêtement, je le laisserai tomber pour cette année. Je scraperai le Hall of Fame de cette année et j'attendrai à WrestleMania l'année prochaine. Peu importe ce qu'on peut dire sur les gens qui sont intronisés dans ce Hall of Fame-là, si les cérémonies doivent rester comme elles sont, selon moi, on ne devrait pas y toucher et attendre l'année prochaine au prochain WrestleMania quand on va quasiment être sûr qu'il va y avoir du public. Évidemment, on n'est pas encore sûr qu'il va en avoir, mais c'est quand même en avril prochain, là, donc on espère que tout soit redevenu comme avant, tout soit revenu à la normale et que le Hall of Fame et évidemment toutes les activités qui font partie du WrestleMania Weekend puissent revenir à la normale et être présentées comme ils se doivent. Donc, personnellement, moi, je pense que ce serait une meilleure idée qu'on laisse faire pour cette année puis on garde tout ce beau monde-là pour l'année prochaine, pour le Hall of Fame 2021. Et voilà, tout le monde. C'est tout pour le premier épisode du podcast Le Troisième Câble. Je vous rappelle, je suis votre animateur Y2Joe, Jonathan Champagne. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Allez suivre ma page Facebook, Le Troisième Câble Podcast. Bientôt, il va y avoir aussi une page Instagram, une page Twitter. Et aussi un site Internet. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Sinon, suivez-moi sur Balado Québec. C'est là que tous mes épisodes vont se retrouver. Et en terminant, je voudrais vous laisser sur un petit peu de sagesse. Et est-ce qu'il y a quelqu'un de plus sage dans le monde que notre célèbre capitaine Charles Batnaud, qui a déjà dit, et je cite, « L'avenir appartient à ceux qui se lavent tôt parce qu'il reste de l'eau chaude. » Sur ce, je vous dis ciao, portez-vous bien, on se retrouve tous la semaine prochaine, car le show se termine là.